Comment on regarde dans la rue, dans la vie? Comment tu me regardes? C'est une question d'actualité, une question de savoir-vivre, une question de société, mais c'est aussi une question de politique. Et pour en parler, je prends toujours l'exemple du cinéma, parce qu'au cinéma, il est tout le temps question de regard. Regard du réalisateur à travers la caméra, regard du personnage sur d'autres personnages, et puis regard du spectateur, enfin. Il faut se poser la question, qui regarde qui et comment, surtout? Comment Marilyn Monroe est-elle filmée par Billy Wilder en 1955, par exemple? Comment la caméra l'a saisie au-dessus de cette fameuse bouche de métro, dans cet temps de réflexion? Et comment le spectateur, homme ou femme d'ailleurs, est-il invité à la regarder, Marilyn, dans cette scène? Cet exemple, qui est devenu emblématique dans les études de films, il pose la question du male gaze, le regard masculin, un terme qui a été employé pour la première fois en 1975 par la journaliste anglaise Laura Mulvey, qui invitait à s'interroger sur ce regard qui semble innocent mais qui traduit quand même quelque chose, même si c'est inconscient, qu'on peut juger fétichiste, sexiste, violent. Et c'est intéressant parce que dans un système, le cinéma, où tout est regard, on nous intime, nous spectateurs, on nous force à regarder d'une certaine façon. Comment est-ce que vous la regardez, cette scène, vous? Et comment est-ce que vous regardez, tiens?
Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a longtemps été regardé et se pique aujourd'hui de regarder les autres. Révélé il y a 12 ans dans La graine et le mulet d'Abdelatif Kechiche, son premier film en tant que réalisatrice, Tu mérites un amour, après avoir brillé dans la sélection de la semaine de la critique à Cannes en mai dernier, sort demain. Au cinéma, elle y saisit avec tant de justesse les illusions et désillusions amoureuses d'une jeune femme d'aujourd'hui. Bonjour Afsia Herzi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors tout d'abord, en quoi une femme ne regarde pas de la même façon qu'un homme, pour vous?
Alors, pour moi, de toute façon, on est différents. Les hommes et les femmes sont tellement différents que de toute façon, ils ne peuvent pas regarder de la même façon. Et on sera toujours différents.
C'est intéressant quand même, parce que vous avez beaucoup été regardé par des hommes,
oui,
au cinéma, en particulier par Abdelatif Kechiche, dont on a beaucoup commenté justement le regard masculin. Alors là, c'est vraiment à l'actrice et à la jeune réalisatrice que je m'adresse. Comment vous avez interprété ces critiques sur sa façon de regarder les femmes?
Je trouve que c'est injuste, parce qu'avant tout, c'est un artiste, et un artiste a le droit de regarder comme il veut. On peut ne pas être d'accord, mais de là le juger, limite le brûler sur la place publique pour ça, c'est n'importe quoi.
Vous, pour autant, vous avez conscience de regarder différemment?
Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression de regarder de la même manière les hommes et les femmes. Je ne sais pas.
Un jour, vous m'avez dit, Afsia Herzi, que les histoires d'amour racontées par des femmes étaient quelque chose qui manquait dans, oui, le cinéma d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vouliez dire?
Que justement, qui manquait de regard féminin. Voilà. Et notamment de regard féminin sur l'amour, le désir, la sensualité.
C'est quelque chose qui a pu vous gêner en tant que spectatrice, ça?
Oui, parce que je ne me suis pas reconnue à travers ça, quoi.
Pourtant, on le constate quand même dans cette émission, il y a de plus en plus de réalisatrices, j'en reçois. Oui. Les choses sont quand même en train de changer, non?
Oui, ça change, ça évolue et c'est important, il faut que ça change. On a besoin de femmes, de création féminine. On a besoin de ça, c'est important. Il faut qu'on s'exprime, Et si l'art peut aider, c'est important.
Quand est-ce que vous avez su, vous, que vous vouliez raconter des histoires au cinéma?
Alors, depuis toute petite, c'est vraiment venu en même temps que mon envie de jouer la comédie. J'ai toujours aimé écrire des histoires, des scénarios qui ne ressemblaient pas vraiment à des scénarios, parce que j'ai pas fait d'école de cinéma. Et en faisant mon premier film, La graine et le mulet, en voyant Abdelatif sur le terrain, je me suis dit, il faut qu'un jour je ferai comme lui, quoi. C'est trop bien.
Et alors, toute petite, qu'est-ce que vous vouliez raconter comme histoire, Afsia Herzi?
Des histoires d'amour, des histoires qui font rêver, j'avais envie de rêver, quoi. J'avais envie de rêver, mais en même temps d'être réaliste, voilà.
Pour échapper à quelque chose?
Oui, pour échapper au quotidien, à l'ennui. J'ai toujours été très inspirée par l'humain, en fait, et très observatrice, et aussi par la différence des gens. Et de leur perception des choses, notamment sur l'amour.
N'empêche, ça doit être un passage assez symbolique pour vous de passer derrière la caméra. Comment est-ce qu'on sent quand on n'est plus dépendante du regard de l'autre, c'est vous qui regardez?
Ah oui, justement, c'est pour ça aussi que j'ai voulu réaliser, pour raconter des histoires et pour ne plus dépendre du désir des autres. Parce qu'aussi, quand on est regardé, on est regardé avec désir par l'homme ou la femme qui nous filme.
Ça a pu être insupportable, ça?
Non, c'est pas insupportable, mais j'avais envie, moi, d'imposer mon désir, voilà.
Alors on se sent libre?
D'exprimer mon désir, oui, on se sent libre. Voilà, c'est une liberté absolue, quoi. On crée, c'est notre regard, on l'assume de A à Z et voilà, que ça plaise ou pas, c'est comme ça.
Dans Tu mérites un amour, votre personnage, c'est une jeune femme libre,
oui.
Vous diriez. Pourquoi
très
elle est libre?
Bah, elle est libre de vivre ce qu'elle vit avec son ex-copain, voilà, qui est infidèle, qui n'est pas très, on va dire, sympathique. Donc elle est libre de partir aussi de ça. Et,
puis ouais, elle est libre dans la relation qu'elle entretient avec son corps aussi.
Complètement, elle est libre avec son corps, elle est libre dans sa manière de penser. Voilà, c'est une femme libre.
Alors cette liberté du corps, justement, parce que moi ça m'a fasciné dans votre film, comment est-ce qu'on fait pour en rendre compte, pour la saisir, pour la capter sur un écran de cinéma?
Bah, je pense qu'enfin, en tout cas, moi, je me suis laissée aller. J'ai vraiment filmé avec mon cœur, vraiment. Et j'ai filmé ce que j'avais envie de voir à l'image, ce qui m'attire aussi dans les corps.
Alors, ce qui est compliqué, c'est que c'est votre corps à vous, en l'occurrence.
C'est ça. Ouais. Mais je filme aussi, voilà, les corps d'hommes et de femmes aussi dans le film. Donc oui, moi, ce que j'aime, c'est, la sensualité, les corps imparfaits, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma aussi.
Mais votre corps à vous, justement, comment est-ce que vous vouliez qu'il soit filmé, qu'il soit regardé?
Pour moi, c'était pas mon corps, c'était le corps du personnage. Donc, en tout cas, pour l'histoire, c'était vraiment un corps perdu. Voilà, parce qu'elle est perdue, parce qu'elle est, son cœur va mal, elle sait plus où elle en est. Donc, du coup, son corps ne lui appartient plus.
Ça veut dire que quand vous regardez le film, parce que je suppose que vous l'avez vu plein de fois, c'est le vôtre, sur l'écran de cinéma, vous ne vous voyez pas vous?
Ah, complètement. Et mais vraiment, et même jusqu'à la fin du montage, quand voilà, il fallait livrer le film à Cannes, pour moi, c'était pas moi, c'était le personnage, et c'est à la fin où je me suis dit, mais en fait, tu joues dedans. J'ai complètement oublié. Ah oui, pour moi, c'est pas moi, ouais.
On parle d'un corps libre à Cerzy, et parler de corps libre en ce moment, parler de corps féminin libre, ça prend forcément une résonance un petit peu particulière. Quand est-ce que vous avez pris conscience du fait qu'on vivait dans un monde d'hommes, dans lequel les femmes n'avaient pas toujours leur place?
Ah bah, depuis toujours. Enfin, moi, j'ai grandi à Marseille, dans les quartiers nord, donc voilà, bon, des petites, il y a tout de suite eu, de toute façon, j'ai grandi avec ça, et je pense que c'est ce qui a forgé mon caractère aussi.
C'est-à-dire?
Bah, l'inégalité homme-femme, la différence, mais c'est pour ça qu'il faut justement se battre et qu'il y ait de
mais
plus en plus de
femmes. Mais comment ça se manifestait, jeune?
Bah, plein de, ouais, bah, des réflexions, même, enfin, dans le travail, hein, il y a toujours des inégalités de salaire, enfin, on sent que parfois être une femme, ça dérange, quoi.
C'est-à-dire que faire du cinéma, c'est répondre à ces questions-là, mais pour autant, on retombe dans une forme de domination masculine.
Ah oui, bah, faire du cinéma, voilà, on domine. La femme, c'est le regard de la femme sur, la femme a du désir, elle peut filmer des hommes, ça existe, oui. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait de plus en plus de cinéastes femmes qui s'expriment et qui n'aient pas peur d'être jugées. Justement, bah dans le film aussi, c'est un film libre. On s'en fout de savoir l'origine, l'inégalité. Voilà, tout le monde est pareil et c'est comme ça.
Vous diriez que le cinéma fait parfois mieux les choses que la vie?
Ah bah oui, bah le cinéma de toute façon fait mieux les choses que la vie. Après, moi j'ai cette envie de cinéma aussi, c'était pour... c'est un message, c'est un espoir aussi. J'ai envie de communiquer de l'espoir et de donner à des jeunes et à des gens et à des femmes aussi l'envie de créer et de s'exprimer.
Celle qui ne donne absolument pas l'envie de créer dans cette émission, qui ne fait rien de bien d'ailleurs, peut-être que vous la connaissez, Afsia, c'est la culture. Et son actualité pleine de mauvaises intentions, que se passe-t-il donc aujourd'hui mardi 10 septembre?
Il n'y a rien de spontané, rien d'improvisé. C'est vraiment un écriture.
Qui a dit que c'était le printemps? Le très éclectique Festival d'automne inaugure ce soir sa 48e édition à Paris. Jusqu'en décembre, l'événement déploie un programme audacieux, marqué cette année par un hommage au chorégraphe américain Merce Cunningham, figure tutélaire de l'événement disparu il y a 10 ans. On attend aussi un portrait en 6 pièces de la danseuse espagnole Maria Ribot, la rétrospective du chorégraphe français Jérôme Bell, ainsi qu'une performance inédite de Romeo Castellucci. Oh oui!
Je fais de l'architecture comme je peins, c'est-à-dire avec un certain détachement. C'est-à-dire je peux créer quelque chose, je peux le démonter, je peux le remonter. J'ai pas peur de cette transformation.
C'est chic, c'est Dominique. Le splendide bâtiment qui accueille la Cour de justice de l'Union européenne au Luxembourg est enfin achevé. Une troisième tour s'érige désormais entre les deux jumelles dorées déjà conçues en 2008 par Dominique Perrault, à qui l'on doit la Bibliothèque nationale de France. Très symbolique, l'ensemble scelle un dialogue de 25 ans entre la France et le Grand-Duché et sera inauguré le 19 septembre prochain. À la bientôt. L'Orient par tous les temps, c'est ce soir que s'ouvre la 14e édition du Festival Arabesque à Montpellier, avec un programme hybride qui fait le pari du dialogue interculturel. On attend notamment en ouverture une représentation des Derviches Tourneurs de Damas, une soirée avec l'orchestre multiculturel de Jordi Savall, venu présenter son projet Orpheus 21, dont il était venu nous parler à ce micro, ou encore un spectacle de la chanteuse syrienne Waed Bouassoun.
C'est là qu'on atteint cette notion essentiellement proustienne d'extratemporalité.
Il remportait le Goncourt il y a 100 ans pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Proust revient à la galerie Gallimard dès demain pour une exposition inédite réunissant lettres, manuscrits, dessins, photographies à partir des archives de la maison. Pour le centenaire du prix, on découvre une soixantaine de documents parmi lesquels un extrait de son cahier de notes personnel ou des dessins inédits de Paul Morin, dont un qui le représente sur son lit de mort. Un petit peu gore. Et la comédienne désormais cinéaste, Afsia Herzi, invitée de Boomerang ce matin pour la sortie de Tu mérites un amour, votre premier film, Afsia, présenté à la semaine de la critique à Cannes, qui vous a également valu le Valois de la mise en scène lors du dernier festival du film d'Angoulême, ainsi qu'une mention pour l'un de vos acteurs. Ce film, vous l'avez financé vous-même, il a été tourné en 5 jours.
Non, 3 fois 5 jours.
3 fois 5 jours quand même. Oui. Cette urgence, ça a servi quelque chose, ça vous a permis quelque chose d'aller si vite?
Oui, ça m'a permis de ne pas réfléchir, voilà. De ne pas réfléchir et de foncer.
Pourquoi c'est pas bien de réfléchir?
Moi, j'aime pas trop réfléchir. En tout cas, en tant qu'actrice, j'aime pas trop me poser des questions trop intellectualisées. Et là, ça m'arrangeait en même temps que ça aille vite comme ça. Voilà. Il fallait que personne ne réfléchisse et fonce, quoi.
De la spontanéité, en fait.
Oui, c'est important.
Mais comment on fait pour rester spontané quand, en plus de tourner son premier film, on tient le rôle principal? C'est ça qui est compliqué.
C'était un peu compliqué, mais j'ai pas réfléchi, j'ai foncé. Je me suis dit, de toute façon, t'as pas le choix. Et en même temps, vu qu'il a été autoproduit, il y avait pas d'enjeu financier derrière, de producteur à me dire, à mettre la pression. Là, franchement, ça a été fait avec légèreté. Et passion et détermination.
Et les prises, vous les faisiez combien de fois, par exemple?
Maintenant, avec le numérique, on peut en faire 50, 60. Mais bon,
vous étiez pris par le temps.
Oui, voilà, ouais. Ce qu'il fallait, franchement. Et j'ai tourné sans lumière. Du coup, c'est que de la lumière du jour. Donc, c'était vraiment, on arrivait, on tournait directement, quoi.
L'instinct, à vous écouter, à regarder votre film aussi, je me dis que c'est central chez vous. Quelle force est-ce que c'est pour la comédienne, la réalisatrice que vous êtes?
C'est très important, l'instinct. Franchement, comme je disais, j'aime pas intellectualiser. J'aime les accidents. J'aime quand les choses ne sont pas prévues.
Vous avez un exemple là, dans le film, par exemple, d'accident?
Oui, il y en a eu plein. Il y a eu souvent vu que les gens n'étaient pas payés. Mais maintenant, c'est bon, tout est réglé.
Ah bah,
oui, voilà.
Payé par la suite.
On est pas hors la loi. Du coup, parfois, il y en a qui pouvaient dire oui, demain 9h, je viens, et voilà, ils n'étaient pas au rendez-vous. Vu qu'il n'y avait pas de contrat, je ne pouvais rien faire. Donc voilà, on s'adaptait, on changeait. Donc il y avait plein d'accidents comme ça où j'ai pris même des gens dans la rue, des techniciens. Tous les techniciens jouent dans le film. Il y a eu un accident, des vrais fous rires. Voilà, vraiment des vrais fous rires. Tous les fous rires qu'il y a dans le film, ils sont réels, quoi.
Quand on parle d'instant, on a toujours envie de parler d'improvisation. Quelle place est-ce que vous avez laissé à l'improvisation dans ce film, vous?
Alors, aucune. On nous pose souvent la question. Vraiment, on me demande si le film est improvisé, mais pas du tout. Après, pour moi, quand on me dit ça, c'est un compliment. Je me dis,
c'est qu'il est vraisemblable.
C'est que les gens sont touchés. Mais aucune improvisation. C'est très écrit, surtout fait en peu de temps comme ça. Voilà, j'avais pas, on va dire, plus dans la mise en scène. Voilà. Je m'adaptais, au lieu, parce que souvent, on pouvait nous prêter un lieu, après voilà, c'était plus disponible, et aussi comment le comédien se sent dans l'espace, quoi.
Ça a l'air d'avoir été des galères quand même.
C'est ça. Non, franchement, non, que du bonheur, vraiment. Ce qui a été compliqué, c'est la post-production, mais le tournage en soi, on a vraiment passé de super moments, quoi.
Mais ce qui marque Afsia Herzi quand on regarde votre film, c'est évidemment le naturel de vos comédiens et de certaines scènes. Comment on s'y prend en tant que metteur en scène pour faire en sorte que ce qui apparaît à l'écran, ça ait l'air vrai?
Je pense qu'il faut beaucoup observer, être observateur déjà dans la vie et s'intéresser aux gens aussi, aux personnalités. Moi, c'est ce que vraiment je recherchais. Je voulais vraiment, je supporte pas les jeux où il y a des temps, des pauses, où on a l'impression que c'est un film. Là, je voulais vraiment qu'on croit que ce soit pris, que ce soit fait à l'instant.
Vous dites oui, ça se répète. Quelquefois, il y a des dialogues qui se répètent, mais parce que dans la vie, on se répète.
Oui, dans la vie, on se répète, on se coupe la parole, c'est la vie. C'est que dans le cinéma où on voit qu'il y a des pauses de 3 heures et que l'autre regarde 4 heures. Et vraiment, je voulais être dans la vie, quoi, dans la vie, dans la réalité. Et du coup, ce qui m'arrivait parfois, c'est que ils avaient le texte, évidemment, le scénario, et que je changeais le jour même, en fait.
La fraîcheur, quand même.
en fait, moi, je suis un peu un Cyrano de Bergerac. Tu vois ce que je veux dire? J'étais l'imminence grise de toutes mes copines.
Et au final, c'est lui qui crie.
Au final, je l'ai dans le cul, quoi. Moi, il n'y a rien pour moi, quoi. Enfin, je ne l'ai pas dans le cul, parce que j'aimerais l'avoir dans le cul, mais je ne l'ai pas. J'ai rien du tout.
Non, mais attends, quand il répond à mes messages, des fois, il s'y croit. Parce que quand je lis, je me dis, mais j'aurais
jamais
répondu
ça. La dernière fois, j'ai failli pleurer sur un message. Parce que j'ai commencé à lui raconter ma vie, mais qui est
ma fausse vie.
Mais pas sa vie à elle. Et je me suis embarqué, tu sais, dans le truc, oui, j'ai. J'ai pas eu la chance de découvrir des choses et tout. Et le mec, il m'a dit, j'ai envie de te protéger. I was like, ouf, je le veux. Et des fois, je me dis, bah,
hey,
peut-être que si ça se passe tellement bien pendant 2 mois à l'écrit, je vais lui dire la vérité et peut-être qu'il va me kiffer.
Ah, un hétéro, il va devenir gay parce qu'il a parlé pendant 2 mois avec un gay,
oui,
alors qu'il croyait qu'il parlait avec moi.
Je suis pas un gay, je suis un être humain, ta race. Eh, écoutez, j'ai pas de vie.
Moi, je vais arrêter de traîner.
J'ai pas de vie, je vous dis la vérité. Pas de vie. Plus de RSA bientôt. Laissez-moi rêver.
Gianni Buziani, qui joue le rôle de votre meilleure amie dont tu mérites un amour, Afsia Herzi, pour une scène comme celle-là, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites à vos comédiens?
Alors, je leur laisse pas le temps de réfléchir. Donc, ils connaissent le texte par cœur, surtout. Parce que voilà, c'est justement quand c'est autoproduit, on a la facilité de rebondir. Donc, je leur disais, voilà, si vous connaissez pas, je passe à autre chose ou je prends quelqu'un d'autre. Donc,
Vous êtes radical, vous.
Bah oui, obligé, on n'a pas le temps. Et du coup, non, bah, on se laisse aller. Voilà, je leur dis, amusez-vous, surtout. Amusez-vous et on le fait dans la joie et la bonne humeur. Surtout, c'est très très important. Quoi. Alors, on est là pour s'amuser avant tout.
Ce qui est hyper intéressant dans cette scène, c'est que votre personnage, elle se pose en observatrice. Justement, vous parliez d'observation. Elle occupe pas le premier plan, elle regarde. Quand est-ce que vous avez compris que vous aimiez ça, vous regardez les autres, observer?
Vraiment depuis toute petite. J'ai toujours été une petite fille curieuse et en même temps assez réservée, mais qui aimait beaucoup poser de questions. Non, j'adore, ça me passionne. Moi, la vie, elle me passionne. Les gens me passionnent. Ouais. Ah oui, vraiment, ouais. Les personnalités et même parfois, enfin, les réactions. Tout ça, c'est vraiment... Moi, c'est vraiment ma passion, quoi.
Mais votre regard, il portait sur quoi quand vous étiez petite? Qu'est-ce qui attirait tout le temps votre attention?
Les grosses personnalités. J'aimais bien observer les gens qui se disputaient. C'est bizarre, hein, mais... Après, c'est Marseille, donc... voilà, Marseille, les Marseillais, déjà, ce sont des acteurs, quoi. Donc, j'ai grandi dans une ville où, voilà, ça jouait tout le temps, quoi. Mais, ouais, les fortes personnalités féminines. Surtout, d'ailleurs, dans le film, il y a de fortes personnalités féminines. Et ça m'a toujours passionnée.
Quel genre d'enfance est-ce que vous avez eu, vous, Afsia Herzi?
Très heureuse. Et j'étais une petite fille rêveuse. Voilà, parce que quand on vient d'un quartier difficile comme ça, on rêve, quoi. On rêve, on espère pouvoir s'en sortir. On rêve de créer. Et du coup, voilà, enfin... C'est que ça, des rêves toute la journée.
Ça n'a pas tout le temps été hyper facile, hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait rêver, vous?
Qu'est-ce qui me fait rêver? Le cinéma. Le cinéma, la vie. Ce qui me fait rêver, c'est d'avoir des objectifs. Et de me dire que rien n'est impossible. Et ce film en est la preuve. Ça n'existe pas dans le cinéma, un film comme ça, fait que 1000 euros, tourné en 3-5 jours.
1000 euros.
Ah oui, 1000 euros, oui. Sans financement, sans rien du tout, sans script, sans maquillage, sans coiffure. On était 4 techniciens. Ça n'arrive pas. Et vraiment, ça a été pour moi un challenge artistique aussi. J'ai voulu le faire pour donner de l'espoir à la jeunesse, aux gens qui rêvent de cinéma, qui n'ont pas fait d'école comme moi aussi. C'est très important. Et c'est, je sais pas, c'est mon devoir d'essayer de transmettre quelque chose. Sinon, voilà, j'ai l'impression de servir à rien, quoi.
Vous vous êtes toujours senti investi d'une responsabilité comme ça, déjà toute petite?
Ah oui, toute petite. Et justement, quand j'ai eu la chance de pouvoir faire La Graine et le Mulet, de réaliser mon rêve. Et justement, c'est pour ça que mon deuxième projet se fera à Marseille, dans les quartiers nord. Oui, c'est une responsabilité, c'est un devoir. C'est important de pouvoir transmettre quand on peut et de donner la chance à des jeunes ou à des gens qui rêvent de cinéma. C'est important. J'ai envie d'être un symbole de l'espoir.
C'est un modèle aussi.
Oui, et on peut faire des films avec rien. C'est possible. Après, oui, pas un film d'époque, pas Marie-Antoinette, c'est pas possible.
Ah, bah, Marie-Antoinette, mais... certainement pas, ouais.
Je pense pas, mais.
Cela dit, Marie-Antoinette dans les quartiers nord de Marseille, ça serait pas mal.
Ce serait, oui, pourquoi pas, mais je pense qu'il faudrait quand même un peu d'argent. Mais si on a une histoire simple et que, voilà, rien n'arrête la création et rien n'arrête l'art, tout est possible.
Je vous demandais qu'est-ce qui vous fait rêver, vous me répondez le cinéma. L'amour aussi, peut-être.
L'amour, oui, c'est important, l'amour. Sans amour, à quoi ça sert de. Enfin, c'est la base, l'amour. L'amour de la famille, un amour, voilà, c'est important d'aimer et de se sentir aimé aussi.
Parce que le film est tout entier dédié à l'amour.
Complètement. Oui, c'est un équilibre. Tout le monde mérite un amour.
Ouais, si tout le monde mérite un amour, on en mérite tous les deux. Hein. On va continuer à parler d'amour. Alors, d'amour heureux ou malheureux, avec Etta James, tiens, Fool That I Am, en 1961. C'était déjà le même drame, vous pensez bien. Vous êtes sur France Inter, avec Afsia Herzi. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
fool that I am. For falling in love with you. And a fool that I am. For thinking you loved me too. You took my heart, then played the part, oh, of little coquette. And my dreams just disappeared like the smoke from a cigarette. And oh yeah, yeah, fool that I am. For hoping, oh, you'd understand. And thinking you would listen to. And oh, the things I had planned. But we couldn't see eye to eye. So, darling, 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 this is goodbye. But I still care. But I still care. And oh, fool that I am. Oh, but I still care. Fool that I am.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
On n'est pas très loin de la Joconde, en fait. Avec sa chevelure de sirène, son regard profond, son sourire énigmatique, on a toujours l'impression qu'elle joue les oies blanches, alors que si ça se trouve, elle prépare un sale coup. C'est elle, la farceuse des bacs à sable, la chipie de la cour de récré, la peau de banane sous mon soulier, avec son sweatshirt babar. Ce matin, qui la ramène, me dit-elle, en enfance, la réalisatrice et comédienne Afsia Herzi, invitée de Boomerang pour Tu mérites un amour en salle demain. Et ce titre, c'est d'abord celui d'un poème de Frida Kahlo, une artiste qui vous a toujours beaucoup inspirée, je crois. En quoi est-ce qu'elle vous a inspirée?
Elle m'a beaucoup inspirée. Voilà, c'est une grande artiste. C'était une grande artiste et qui a marqué plusieurs générations. Et voilà, là, je pense qu'elle aurait eu un peu plus de 100 ans. Et on en parle toujours. Elle est toujours présente. C'était une femme forte qui a eu une histoire de vie difficile, des histoires d'amour très, très difficiles.
Et voilà. Qu'est-ce qui vous bouleversait dans ce poème en particulier?
Qu'est-ce qui m'a bouleversée dans ce poème? C'est sa vérité. C'est sa vérité. Enfin, moi, dès que je l'ai lu, j'ai été bouleversée en partageant un petit peu autour de moi. J'ai vu que les gens étaient bouleversés aussi, ou parfois se retenaient, voilà, mais je sentais l'émotion. Enfin, ce qui m'a bouleversée aussi, c'est de me dire, mais il y a 100 ans, voilà, l'amour, c'était déjà un problème. Mais en fait, c'est depuis la nuit des temps que c'est comme ça.
Ça, je vous le confirme.
C'est depuis la nuit des temps. Ce sera un problème éternel.
Quel modèle féminin est-ce que ça a été pour vous, Frida Kahlo? Quel repère, en fait, Afsia Herzi?
Quel repère? L'espoir. L'espoir, la combativité. C'était une femme, une battante. Une battante dans une époque qui n'était pas facile.
Alors ce qui est intéressant, c'est que Frida Kahlo, elle n'a cessé de se mettre en scène dans des autoportraits.
Oui.
C'est aussi un petit peu ce que vous faites dans votre film. Et là, je pense à cette scène où vous faites poser votre personnage pour un jeune photographe. Alors cette scène, elle est très forte dans le film. Qu'est-ce qui vous l'a inspirée?
Qu'est-ce qui me l'a inspiré? Il y avait ce personnage qui existait, qui faisait de la photo. Quand j'ai rencontré Anthony Bajon, que j'avais découvert dans La Prière, voilà, et je me suis dit, voilà, il faut qu'il fasse le personnage. Je lui ai demandé un petit peu quelles étaient ses passions. Il m'a dit, bizarrement, la photo. Donc, c'était vraiment parfait. Je me suis dit, mais c'est parfait, c'est que c'était vraiment pour lui. J'avais envie, d'un regard, d'une scène sensuelle. sensuel, avec voilà beaucoup de douceur. De à ce moment-là, voilà, le personnage n'a plus confiance en elle, a perdu certaines sensations et voilà, il pose un regard tendre et généreux sur elle et admiratif, et ça lui fait du bien.
La première fois, Afsia Herzig, vous vous êtes sentie regardée par un cinéaste. C'était quand ?
La graine et le mulet, Abdelatif Kechiche. C'était formidable. Moi, j'étais contente. Hein. Moi, j'adorais être filmée. J'étais trop contente, quoi. Et c'est quelqu'un qui filme avec amour. D'ailleurs, ça se voit dans ses films. Enfin, les gens sont magnifiques. Et il n'y a vraiment aucun artifice, aucun maquillage, rien du tout. Il aime les acteurs et il les rend sublimes, quoi. Il les rend sublimes, vraiment.
Qu'est-ce qui vous a appris au fond sur ce que c'est que le cinéma, Abdelatif Kechiche ?
Il m'a beaucoup appris déjà de le voir travailler, c'est énorme, c'est une chance énorme de travailler avec lui, c'est énorme. Il m'a appris qu'il fallait pas se poser de questions, voilà, qu'il fallait filmer avec son cœur et essayer d'être sincère et de ne pas tricher, de ne pas fabriquer. Il m'a beaucoup appris énormément.
Il l'a vu le film ?
Non, il a vu des extraits parce que bon, il était occupé avec ses films. Et quand il a vu la bande-annonce, il m'a dit « Oula, ça fait un peu Kechiche ». Et il a rigolé. Là, il est très fier. Et je lui dis « t'es mon inspiration ». J'ai dit « Après, je peux pas t'imiter, t'es inimitable. J'aimerais bien t'imiter ».
Vous êtes d'accord que ça fait un peu Kechiche ?
Je sais pas, mais ouais, j'ai essayé d'aller... Lui, il va au maximum de la vérité, quoi.
À quel moment du tournage est-ce que vous avez pensé à lui ?
Franchement, aucun moment, plus au montage. Vraiment, quand j'ai tourné, ça a été vraiment moi ma sensibilité artistique et sur le moment et avec les gens, les rencontres. Mais après, au montage, je me suis dit, mais c'est dur le montage, comment il fait et tout. Et je suis allée le voir, il m'a dit, c'est ça, metteur en scène. Il m'a dit, bon courage, hein, t'as voulu passer derrière la caméra. Tu vois que c'est pas facile, quoi.
Les cinéastes que vous aimez, Afsia Herzig, qu'est-ce qu'ils ont en commun, à votre avis?
Les cinéastes que j'aime, ils ont en commun l'humain, je pense, leur regard humain sur les gens. Ils regardent les gens vraiment. Ils aiment les imperfections. Voilà, moi j'aime les imperfections. J'en ai marre du cinéma où tout est parfait, tout est beau, tout est tiré, c'est pas ça la vie. La vie, on a tous des défauts, on est imparfait. Et ils regardent avec sincérité.
Pauvre petite. Pauvre Mara. Qu'est-ce que tu veux, mon petit, quand ton homme les a trompés? Ça les dégoûte de notre nature. Et elles ne peuvent plus aimer personne. Et ça devient des filles des rues. Et puis quand elles ont commencé, elles n'ont plus rien à perdre. Marius, l'honneur, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois.
Rému et Pierre
magnifique.
Freinet dans Marius d'Alexander Korda, adaptation de la pièce de Marcel Pagnol en 1931. Et c'est leur voix que vous avez choisi de nous faire entendre ce matin, Afsia Herzig. Pourquoi ?
Oui, parce que c'est Marcel Pagnol, c'est ce qui m'a fait rêver toute mon enfance et qui continue à me faire rêver. C'est un auteur magnifique qui racontait des histoires de la vie, tout le monde pouvait s'identifier à ce qu'il racontait.
Vraiment ? Parce que c'est quand même la France d'une autre époque. Et une certaine France aussi.
C'est la France d'une autre époque, c'est autre chose, mais voilà, comme par exemple dans cet extrait, il dit des choses vraies. Il dit des choses vraies, il parle, c'est une discussion entre un père et son fils, c'est magnifique. Il lui transmet beaucoup, c'est vraiment, moi ça me bouleverse, vraiment Marcel Pagnol.
Je vous ai entendu dire un jour, Afsia Herzig, que la France d'aujourd'hui, vous la voyez pas souvent au cinéma.
Oui.
Quel visage est-ce que vous avez eu l'impression de lui donner, vous, avec ce film?
Je pense qu'avec ce film, je lui donnais un visage réaliste. La réalité, c'est que maintenant, tout le monde est mélangé. Le métissage, c'est la vie, quoi. Il faut un peu de couleur dans le cinéma, ça fait du bien. Ça change. Il faut que les gens puissent s'identifier, c'est important. Et l'amour n'a pas de frontières. Et le film ne traite pas de ça, quoi. On s'aime malgré que l'autre soit typé ou quoi. On n'en a rien à faire. Je voulais vraiment des personnages qui incarnent la tolérance. Et c'était important pour moi, c'est la France que je connais et que j'aime.
C'est pour ça que vous faites du cinéma, en fin de compte?
Oui, c'est important. Sinon, à quoi ça sert de faire un film si on ne veut pas transmettre un message ou quelque chose, et si on ne veut pas donner de l'espoir à des gens ou de la force? Par exemple, ce film, c'est le deuil d'un amour. Et si ça peut permettre à des gens qui passent par là ou à des gens qui sont passés par là d'aller mieux et de ne plus se sentir seul, parce que souvent quand on est dans ce genre de situation, on peut se sentir seul au monde, mais on n'est pas seul, tout le monde passe par là et passera encore par là, et c'est la vie, et il faut essayer d'être fort et voilà, et de s'aimer et de se battre pour aller mieux, c'est important.
J'ai l'impression qu'avec le cinéma, vous rendez aux autres, aux gens, ce que le cinéma vous a donné. C'est un acte très généreux, en fin de compte.
Oui, c'est important. Bah oui. Et je pense qu'il faut être généreux pour faire du cinéma. Pour pouvoir transmettre des émotions, c'est important. Et c'est un échange aussi.
Alors merci. Merci infiniment, Afsi Herzi, pour cette générosité. Merci d'être venu faire un tour dans Boomerang. Oui. Je rappelle que Tu mérites un amour avec Gianni Buzzani, Jérémy Laherte, Anthony Bajon, entre autres, sort demain. C'est léger, c'est drôle, c'est vivant. Ça vous donnera envie d'être amoureux, même si on morfle.